Le temps d'un échange, quand la recherche parle aux professionnels. Chaque mois, Quinte.info invite une autrice ou auteur de la recherche francophone à discuter et partager avec nous le fruit de ses travaux pour apporter un éclairage sur les grands enjeux de notre société. En vous proposant un entretien inédit, nous vous invitons à poursuivre la réflexion pour alimenter votre pratique professionnelle et toujours mieux soigner, accompagner, transmettre. Cet épisode est écrit et présenté par Cécile Guéret et réalisé par Gong Audio.
Le temps d'un échange avec Dorothée Legrand, l'impact de l'écoute dans la rencontre clinique. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue pour le temps d'un échange. Aujourd'hui, nous recevons Dorothée Legrand pour parler de l'impact de l'écoute dans la rencontre clinique. Dorothée Legrand est chercheuse en philosophie au CNRS et à l'École normale supérieure, où elle anime le séminaire Articulation philosophique et psychanalytique depuis plus de 10 ans. Elle est aussi psychologue et psychanalyste, elle pratique en libéral, et elle pratique aussi dans un cadre associatif auprès des personnes exilées, notamment avec les associations Migrance. Migrance, c'est une association qui accompagne à l'ENS des étudiants en situation d'exil, et l'association Le Chêne et l'Hibiscus. Dorothée Legrand est enfin l'autrice d'un essai alliant phénoménologie et psychanalyse, intitulé « Écrire l'absence au bord de la nuit » et publié chez Hermann en 2019. Bonjour Dorothée Legrand, merci d'être avec nous aujourd'hui.
Merci à vous.
Alors je vais commencer par une première question que je pose à tous mes invités. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ce thème de recherche, en l'occurrence la question de l'écoute dans la rencontre clinique ?
Je crois que ce qui m'y a amené, c'est plutôt un contraste entre une supposée évidence et une intrigue. J'ai l'impression que beaucoup de personnes pensent qu'il est assez évident que parler, ça fait du bien. Pour moi, c'est une intrigue, c'est assez énigmatique. Ce qui fait que la parole peut avoir un effet, peut avoir un impact, peut faire du bien, peut faire du mal. Et depuis longtemps, je me demande... qu'est-ce que c'est que parler ? Qu'est-ce que c'est que la parole ? Qui fait qu'elle puisse avoir cet impact-là ? Freud, à un moment donné, il dit effet magique. Et pourquoi parler quand on a mal, pour le dire d'une manière un peu ramassée ? C'est dans ce contexte-là que j'arrive à l'écoute, à la pratique de l'écoute, au fait d'être écouté et d'écouter.
Alors souvent on parle de la psychanalyse comme une cure par la parole. Évidemment, c'est aussi une cure par l'écoute, c'est-à-dire par le fait d'être écouté. Pour autant, la parole et l'écoute, si elles sont complémentaires, ne se recouvrent pas.
L'écoute appartient à la structure même de la parole. J'en arrive à essayer d'écrire parole écoutée en un seul mot, parce que il me semble que ce sont deux pôles d'une structure commune. Que parole et écoute sont indissociables l'une de l'autre. Je pense que c'est pas radical de dire que la parole est détruite dès lors qu'elle n'est pas écoutée. Et qu'à l'inverse, un son peut advenir en tant que parole dès lors qu'il est écouté comme parole. Je pense par exemple au la-la-la, à la lalation, au gazouillis des enfants. On peut se dire, est-ce que c'est une parole ? À quel moment ça devient une parole ? Et il me semble que ça le devient, entre autres, par l'écoute, par le fait d'être écouté, par le fait d'être donné à entendre en tant que parole. Et du coup, là, on voit qu'il y a une responsabilité très importante de l'écoute qui fait advenir la parole en tant que telle. Et l'impact clinique, mais l'impact tout court de la parole ou de la parole écoutée, en un mot, il y a quelque chose dans l'enseignement de Lacan qui me frappe beaucoup, qui est de considérer qu'à partir du moment où il y a parole, ou je dirais parole écoutée, il y a quelque chose qui arrive à l'existence. Il y a quelque chose qui n'existe plus de la même façon. Et il dit que ce quelque chose, c'est quelque chose d'humanisant. Et du coup, le propos est quand même très fort, très radical, qu'il s'agit de reconnaître ou d'abolir le sujet en tant que tel. Et dans mon travail, je prends ça assez au sérieux. Cette responsabilité-là, cet impact-là, d'écouter et ne pas écouter, ça va avoir comme impact une subjectivation ou une désubjectivation, voire une déshumanisation, pour reprendre ce terme de Lacan. Et pareil, je trouve que ça nous amène à cette énigme ou à cette intrigue. Qu'est-ce que c'est que la parole pour qu'elle ait un tel impact, tellement puissant, tellement fort? Et il me semble que, en tout cas, moi, j'arrive à le comprendre en pensant, en revenant à la compréhension de la parole et de la langue comme symbolique, au sens strict. C'est-à-dire, un symbole, c'est quoi? C'est un truc qu'on a cassé en deux et qui fait pacte entre deux personnes, chaque personne gardant un bout, un fragment. Et ça a l'air tout simple. Et en même temps, ça me paraît fondamental pour comprendre cet impact de la parole et de la parole écoutée. En tant que symbolique, la parole, le langage, c'est fragmentaire. C'est-à-dire que personne ne peut tenir ça à soi tout seul. Ça veut dire aussi qu'on ne peut pas maîtriser la parole, le langage à soi tout seul. Et qu'il y a une sorte de recherche de l'autre qui permettra d'honorer le pacte symbolique. Et cet autre, ça va être l'écoutant ou le parlant aussi. Et il y a quelque chose qui vient animer, mobiliser la recherche de l'autre de cette manière-là. Et en même temps, je pense que ça fait entendre aussi que ce pacte symbolique, il ne peut pas se jouer simplement entre les deux protagonistes. Qu'il n'y a pas l'idée de pouvoir retrouver le petit morceau cassé et de le recoller parfaitement et en faisant comme s'il n'y avait pas eu cassure. Ça, ce serait faire comme s'il n'y avait pas eu pacte symbolique. Donc ça effacerait complètement ce qui est en jeu. Et le travail à cet endroit-là, il est tout à fait inverse. Il est de ne pas laisser les fragments isolés comme ça, les uns indépendants des autres, mais de les mettre en circulation, de les mobiliser les uns avec les autres. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle langage, en fait. Et ce que ça amène à comprendre, c'est, dans un sens assez concret, c'est que le langage, c'est une structure d'accueil. Et du coup, l'écoute à cet endroit-là, si elle doit servir à quelque chose, elle a pour fonction d'inscrire. Elle n'a pas forcément pour fonction de comprendre, d'acquiescer, de juger, encore moins. Elle a d'abord, surtout et peut-être seulement, pour fonction d'inscrire, c'est-à-dire de reconnaître le fragment qui vient là comme une parole en tant que telle et du coup de la faire participer à ce grand ensemble dynamique qui est cette structure d'accueil qui est le langage. L'importance de souligner l'écoute, la fonction de l'écoute à cet endroit-là, c'est vraiment de faire la distinction entre une parole aussi précise, aussi nuancée, aussi chargée émotionnellement, soit-elle, la différence entre une parole comme ça qui tomberait dans le vide ou qui se référait qu'à elle-même, par contraste avec une parole qui ne tomberait pas dans le vide mais qui tomberait dans l'oreille de quelqu'un, ce quelqu'un d'autre ayant ses oreilles connectées au pacte symbolique, si je puis dire, dont ça se joue toujours à plus d'un et à plus de deux. Et ça me semble une différence fondamentale, peut-être une spécificité, je ne sais pas, de la psychanalyse à cet endroit-là, en tout cas quelque chose sans quoi il n'y a pas psychanalyse à mon avis, c'est justement qu'il ne s'agit pas seulement de parler, il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit d'un don, dit Lacan à un endroit, le don de la parole, mais le don de la parole, c'est l'écoute qu'il le donne. C'est parce qu'il y a écoute que la parole advient en tant que telle et qu'elle va faire advenir quelque chose par le fait même d'en parler, si tant est que ça tombe pas dans le vide.
Parce qu'il y a une réception de cette parole.
Il y a une inscription, je dirais. Qui change le statut, vraiment. C'est en tout cas comme ça que je comprends cette indication de Lacan sur quelque chose existe d'une autre façon à partir du moment où il y a une parole. C'est au-delà de la compréhension et de la réception, c'est de l'inscription, et ça veut dire que ça inscrit dans un temps long, ça inscrit au-delà de moi, au-delà de vous, au-delà de nous. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus large et qui fait que ça existe au-delà de la contingence. Que ça n'existe pas simplement au moment où je le dis, Ça n'existe pas simplement au moment où je le ressens. Ça existe parce que c'est inscrit. Et ça existe d'une autre façon parce que c'est inscrit. Et du coup, ça acquiert une sorte de réalité, d'objectivité qui n'est pas possible si ça reste simplement dans l'autorité de la première personne. Dans l'autorité de « je le sens, alors c'est vrai ». « Je le sens, alors ça existe ». « Je le dis, alors c'est vrai ». « Je le dis, alors ça existe ». Là, il y a quelque chose qui passe au tiers, qui passe d'abord à une autre personne, mais par l'autre personne, ça s'inscrit dans un registre tiers. Et ça change fondamentalement le statut de ce qui est en jeu. Et il y a beaucoup, beaucoup de souffrances qui sont liées justement à ce tremblement dans quel est le statut, quelle est l'existence de ma souffrance. Je la sens, je ne peux pas ne pas la sentir. Et en même temps, si personne ne l'entend, si personne ne l'inscrit, alors ça existe un peu moins. Et ça n'existe pas de la même façon. Et ce exister un peu moins pour quelque chose d'aussi intime, je parle de souffrance, mais ça peut être aussi une joie très grande, mais quand quelque chose de vital, disons, se met à trembler et on ne sait plus trop si ça existe, bah du coup, c'est la vie, la capacité de tenir à cet endroit-là en vie qui se met à trembler. Et je pense que la parole écoutée, en un mot, a une responsabilité précisément à cet endroit-là.
C'est-à-dire que pour le clinicien, déjà, écouter cette souffrance, c'est en soi un acte d'accueil, un acte d'inscription.
Mais c'est très curieux parce que j'ai l'impression que l'écoute, elle est coincée entre un fantasme d'impuissance et un fantasme de toute puissance. Oui. Et qu'il faut se méfier de ces deux pôles-là très fort. Comme s'il y avait le fantasme de « écouter, ça suffit », et le fantasme de « je peux rien faire d'autre qu'écouter, et écouter, c'est presque rien ». Et en fait, il me semble que c'est ni l'un ni l'autre, que écouter, c'est pas rien du tout, que c'est un acte, que c'est une responsabilité, que ce n'est pas une pure passivité comme ça, de il y a des sons qui arrivent et puis ça tombe dans mon oreille ou pas, et j'en fais rien. En fait, j'en fais quelque chose, je l'écoute. Il y a quelque chose d'actif à cet endroit-là. Et je dirais qu'il ne s'agit pas seulement d'écouter, il s'agit de donner à entendre son écoute. Il y a différents silences. On peut écouter en silence. Et comment faire en sorte que la personne en face de nous entende ce silence comme un silence d'écoute et non pas un silence d'indifférence, de passivité, d'endormissement, de je ne sais quoi. Ou de jugement. Comment on adresse, en fait, son écoute de la même manière que la parole nous est adressée. Et là, il y a aussi une activité très forte qui est très subtile, puisqu'elle ne peut pas être bruyante. Elle se différencie très peu d'un silence d'indifférence. Dans la rencontre psychanalytique, les rôles sont strictement dissymétriques. Ça lui est souvent reproché. Je pense que c'est très important que ça reste dissymétrique. En revanche, il n'y en a pas un qui écoute et l'autre qui parle. L'écoute, elle circule en permanence dans la rencontre. Par exemple, la règle de l'association libre, ça veut dire aussi écouter ce qui arrive. Que l'analysant, que le patient, que le parlant, il se met à l'écoute de l'écart entre ce qu'il pensait savoir depuis toujours, le déjà entendu, le déjà su, le préjugé. C'est toujours comme ça, je fais ça depuis toujours, je le sais depuis toujours, je le savais avant d'arriver. Bon, n'empêche que de le dire, quand c'est écouté, ça crée ce décalage-là, qui est à la fois minime et fondamental pour qu'il y ait un bouger. Sinon, parler, ça ne servirait à rien. Parler, ça servirait juste à mettre des mots déjà dits sur des pensées déjà pensées ou des sensations déjà senties, etc. Et ce statisme-là, il est tout à fait contraire à la mobilisation qui est visée par la psychanalyse.
Et alors, vous parliez tout à l'heure d'espace tiers. Je me demandais, cet espace tiers, c'est l'espace, quelque chose qui nous dépasse, quelque chose qui est de l'inscription dans l'humanité ?
Mais je dirais oui. Enfin, oui et non. C'est-à-dire, la rencontre est toujours singulière, même quand elle a déjà eu lieu 3 fois par semaine depuis 15 ans. À mon sens, il faut qu'elle le reste singulière, sinon on retombe dans du pré-entendu, du déjà vu et du déjà su, et donc on n'écoute plus. Ce qui est appelé par la rencontre singulière, c'est une réponse en réalité qui concerne l'humanité dans le sens où ça concerne ce registre, ce pacte symbolique qui concerne tout le monde. Ça me paraît essentiel de dire qu'il n'y a pas de critères pour inclure ou exclure qui que ce soit dans ce registre-là. C'est pas qu'on a un critère pour savoir si c'est de la parole, c'est pas de la parole, je l'écoute pas. C'est parce que je l'écoute que ça advient comme parole. Et donc ça concerne, par définition, ça doit concerner tout le monde. Donc là, l'acte d'écouter, donc d'inscrire, ça concerne cette personne-là qui vient à ce moment-là et qui fait cet acte-là singulièrement, à chaque fois. Et en même temps, à chaque fois, dans cette ultra-singularité, ça vient mobiliser le pacte symbolique et donc ça vient concerner l'humanité. Et l'humanité, la déshumanisation en contrepoint. Cette idée qu'il n'y ait pas de critères, qui est une sorte d'hospitalité inconditionnelle, pour utiliser les mots de Jacques Derrida que j'aime beaucoup, qui sont très critiqués, mais que j'aime beaucoup. Un exemple de ça, qui est encore une fois beaucoup plus qu'un exemple, c'est Antigone, qui donne une figure à l'éthique de la psychanalyse, et c'est pas pour rien, à mon sens, c'est pour plusieurs raisons, mais il y a cette raison-là qui est absolument essentielle à mon avis, c'est qu'elle se refuse radicalement à exclure qui que ce soit, son frère en l'occurrence, du pacte symbolique. Et donc, contre la loi, contre etc., etc., tout ce qui lui est objecté, Créon, qui veut, lui, imposer un critère. Celui-là, oui, on va l'inscrire. Celui-là, non, on ne va pas l'inscrire. Antigone refuse ça absolument radicalement. Et là, elle est dans une hospitalité inconditionnelle qui est pas n'importe laquelle, qui est, à mon sens, la seule hospitalité qui peut et qui doit être inconditionnelle. C'est cet accueil dans la structure du langage. C'est pour ça que je dis que le langage est une structure d'accueil, dans ce sens de l'inconditionnalité et d'accepter la responsabilité de faire advenir quelqu'un et de l'inscrire, qui que ce soit, à cet endroit-là, indépendamment de la candie, indépendamment du bien, du mal, de la contingence de sa vie, etc., etc., de ce qu'il aura fait, de son histoire, de bon. Tout ça est suspendu, pas de manière totale, est suspendu dans ce registre très précis, très particulier, qui est cette structure d'accueil-là. Après, on peut avoir quand même des tribunaux et quand même faire des différences entre les deux frères d'Antigone, etc. Mais à un endroit, il faut que ce soit suspendu. Et cet endroit, c'est vraiment ce lieu-là d'inscription.
C'est-à-dire que l'écoute psychanalytique, en tout cas l'éthique de l'écoute psychanalytique, c'est vraiment, quand vous parliez d'hospitalité, ou moi j'utilisais le mot d'humanité, c'est vraiment cette idée que le psy est a une responsabilité fondamentale d'accueillir l'autre pour reprendre les mots de Lévinas, avec cette idée de se placer sous l'ordre public, c'est-à-dire sous le regard, l'idée de l'intégrer dans l'humanité, d'avoir cette responsabilité au nom de l'humanité, c'est ça, cette question-là ?
Oui. Mais on peut le saisir assez concrètement. Je pense là à certains des patients que je rencontre dans le cadre associatif qui sont en situation d'exil, qui parfois ont traversé et traversent encore des situations que je dirais déshumanisantes. Et il se trouve qu'ils viennent voir une analyste. Bon, ça paraît tout à fait curieux à certains en tout cas. Qu'est-ce qu'ils viennent faire là ? Qu'est-ce qu'ils viennent faire ? Alors la première fois, on peut se dire, bon, ils se sont trompés de bureau et puis ils pensaient pouvoir obtenir quelque chose de très concret comme ce qu'on appelle les besoins primaires. Moi, il se trouve que dans les besoins primaires, je mets justement cette parole écoutée. Et les patients ne s'y trompent pas, c'est-à-dire que très 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 rapidement, ils voient bien que la personne en face, le psy en l'occurrence, ne peut rien, entre guillemets, ce qui encore une fois n'est pas rien du tout. Il peut cette chose très spécifique qui n'est pas possible ailleurs, parce que ça arrive là dans sa pureté. C'est cette inconditionnalité. Et il y a un effet extrêmement frappant. Je pense que ça peut se passer avec tous les patients, mais là, c'est très aigu, c'est très manifeste. Ce sont des patients qui peuvent être en errance et en perte d'humanité, c'est-à-dire que c'est vraiment ce qu'ils rapportent. Et je pense que là, il y a une responsabilité très concrète de réinscrire. Et il ne s'agit pas d'interpréter, de comprendre, etc., d'analyser les fantasmes, les désirs, etc. Il s'agit de tout ça, comme avec n'importe quel patient. Mais d'abord, il s'agit d'inscrire, de réinscrire dans l'humanité. Et en réalité, c'est très, très palpable. Qu'à cet endroit-là, écouter quelqu'un qui n'est jamais écouté que de manière instrumentale, au max, quand il est écouté. Il n'est soit pas écouté du tout, quand il est écouté, c'est de manière instrumentale. Qu'est-ce que tu veux ? Je ne l'ai pas, je te le donne pas. Là, il y a une écoute qui est complètement désinstrumentalisée, on pourrait dire, et donc humanisante. Et ça change radicalement le rapport. Et il y a quelque chose qui s'enclenche là, qui concerne la personne singulièrement qui arrive. Ce n'est pas l'humanité qui arrive. C'est lui, là, maintenant, qui arrive. Et en revanche, l'inscrire, lui, là, maintenant, qui arrive, l'inscrire dans l'humanité, évidemment que ça concerne l'humanité entière, par définition. C'est-à-dire, ne pas le faire, c'est pas seulement déshumanisant pour la personne qui est là, c'est aussi, en quelque sorte, ça paraît vraiment grandiloquent, mais je pense que c'est au sens strict ce qui se passe, c'est priver le monde de la participation de cette personne-là à cette structure qu'est le langage, et priver cette structure de cette parole-là, cette langue-là, cette histoire-là, cette vie-là, cette mort-là, etc. etc. Donc, c'est comme participer à une sorte de dégénérescence si on n'écoute pas, si on ne reçoit pas, si on n'accueille pas. Par contraste, avec si on écoute, si on accueille, participer à la générativité, à la dynamique de cette structure d'accueil.
En vous écoutant, je pensais aussi à la fécondité de cette structure d'accueil, au fait que parler à quelqu'un qui écoute, en soi, c'est fécond d'autre chose. Ça ouvre, je ne sais pas, peut-être déjà à une autre manière de s'entendre, vous le disiez tout à l'heure, mais aussi peut-être à une autre manière de voir son histoire, de voir son passé, et peut-être une autre manière d'ouvrir l'avenir aussi. Il y a une fécondité à cet endroit-là.
Oui, bah c'est toute l'idée, effectivement. Pour moi, le terme de fécondité, il se trouve qu'il est devenu très important grâce à Lévinas. Lévinas qui aide vraiment tellement à penser toutes ces choses-là, alors qu'il n'y a pas ou qu'il n'y a pas d'interaction avec la psychanalyse explicite. Mais la fécondité, pour Lévinas, c'est plein de choses, mais bah, c'est assumer l'actuel comme le vestibule de l'avenir. Et je pense que le cabinet d'un analyste, c'est ça, c'est un vestibule de l'avenir, où on assume l'actuel. On assume aussi le passé qui, de plein de manières, peut peser comme une fatalité, dit encore Lévinas. Et l'assumer, ça veut dire s'y reconnaître comme sujet. Alors on peut vouloir ne pas le faire, parce que ça peut être très très violent, ça peut être au minimum extraordinairement inconfortable, parce que ce dont on parle, c'est justement ce qui pèse comme une fatalité, c'est une tragédie. C'est précisément ce dont on ne veut pas. Ce dont on peut accuser les autres, ou la fatalité. Et on aimerait que ça change. On aimerait pouvoir réécrire l'histoire ex nihilo. C'est pas ça le pari de la psychanalyse. Par contre, c'est de permettre, encore une fois ce terme, une inscription du sujet dans une histoire qui n'en avait pas forcément, ou qui donnait pas forcément de place au sujet en tant que tel, vraiment dans sa subjectivité, dans sa singularité. Et retrouver sa singularité dans son histoire, ça change pas l'histoire, mais ça change l'histoire. Ça permet de la réarticuler différemment, de s'y retrouver et d'en faire un vestibule, cette formule magnifique, un vestibule de l'avenir.
Et alors, c'est l'avenir en un mot ou en deux mots ?
Alors là, c'est écrit.
Quand Lévinas en parle.
Quand Lévinas l'écrit, c'est en un mot. Mais oui, à venir, ce serait l'écriture de Derrida, qui aide énormément aussi à penser cette fécondité autrement, avec cette réarticulation de la mémoire, qui porte maintenant l'avenir. Et c'est l'avenir. Alors, ça peut être l'avenir en un mot, ça porte toujours l'avenir, la venue, le venir, ça porte l'arrivant. Et donc, ça porte très fortement chez Derrida le contraire de ce qui est toujours déjà arrivé. Et donc, c'est vraiment un outil de déconstruction de l'origine, ou du mythe de l'origine, comme ça a toujours été comme ça, ça pèse sur moi depuis toujours, et donc pour toujours. Là, il s'agit de déconstruire ce mouvement-là et de se dire quelle est la place, encore une fois singulière, du sujet qui aura cette possibilité de réagencer les fragments cassés dont on parlait tout à l'heure de symboles, de les réagencer justement parce qu'ils sont fragmentaires et que ça peut bouger entre les deux. Et puis qu'il y a une situation présente, Derrida dit « ici et maintenant », la mémoire qui porte l'avenir. Et ce « ici et maintenant », en fait, il est inédit. En tout cas, si l'analyste joue le jeu de l'inédit. C'est pour ça qu'une séance, elle est toujours nouvelle, du côté de l'analyste en tout cas. Parce que ça porte cet inédit, ça porte l'événement. Ça n'est jamais déjà arrivé, sinon il n'arrivera jamais rien. Et cette manière-là de dynamiser, je dirais, la psychanalyse, c'est le contraire d'une sorte de, d'habitude qu'on a peut-être de penser la psychanalyse comme une manière de ressasser le passé. Et puis d'accuser l'analyse, voire l'analyste, de nous engluer dans le passé, à force d'avoir à le répéter. Je ne veux pas en parler, en parler me fait du mal, je préfère oublier. Et quand même, j'y pense tous les jours, j'y pense toutes les nuits. Et donc en parler, ce serait encore pire. Bah oui, d'une certaine façon. Si c'est parler comme dire des mots déjà dits sur des sensations déjà senties, bah oui, effectivement, on a plutôt envie d'éviter ça, vraiment. Toute la question, c'est comment on transforme ça.
Comment on se laisse surprendre.
Exactement.
En fait, par l'imprévisible de la situation, de ce qui se passe en séance.
De ce qui se passe en séance.
De cette situation singulière, de cette séance-là singulière.
Ouais. Il y a un auteur qui décrit ça de manière magnifique, je trouve, de manière extrêmement précise, et j'y tiens d'autant plus que c'est pas forcément attendu de lui. C'est Merleau-Ponty. Maurice Merleau-Ponty, qui n'est pas du tout psychanalyste, qui s'intéresse de très près à la psychanalyse et qui démontre à quel point il est sensible à ce qui se passe en pratique, pas simplement épistémologiquement, etc., mais en pratique, dans une séance de psychanalyse. Il décrit le transfert, en réalité. Et il le décrit d'une manière tout à fait particulière. Il le décrit comme une situation présente qui permettra de transformer le passé, dit-il. C'est quand même pas rien. C'est pas une petite chose de transformer le passé.
De relancer le passage du temps. C'est magnifique.
Oui, absolument. Et du coup, il n'y a plus cette répétition statique qui, justement, empêchera le passage du temps. Et le relancer par la situation présente, qui est, dit-il, la coexistence avec le prochain, avec l'analyste, le thérapeute, le clinicien, en situation, en acte. Et sûrement, le parler-écouter, il est à cet endroit-là. C'est un ici et maintenant qui n'est pas ajournable. Il y a une espèce de timing de cette chose-là qui est très important et qui permet cette relance du temps. Et donc, ne pas tout écrire au passé, mais avoir cette nuance de conjugaison des verbes qui fait qu'on pourra aussi avoir un présent qui n'est pas toujours déjà écrit et qui relance quelque chose du côté de l'avenir.
Très bien, merci beaucoup Dorothée Legrand. J'arrive à la question rituelle de fin. Quel serait votre conseil pour un ou une professionnelle qui aimerait tendre justement vers cette écoute clinique, vers cette éthique de l'accueil par l'écoute?
Je crois que ça tiendrait en trois verbes. Commencer par ne pas croire comprendre. C'est une citation de Lacan, c'est pas de moi. Mais c'est, pour moi, ça me sert vraiment, vraiment de boussole. Et souvent, on peut penser que Lacan va s'enorgueillir de l'ignorance et valoriser l'ignorance plutôt que le savoir. Je pense que c'est pas ça du tout et que c'est pour ça que les trois verbes sont importants. Commencer par ne pas croire comprendre. Donc il s'agira de comprendre peut-être à un moment donné, mais surtout pas commencer par ça et pas commencer par croire comprendre quand on comprend rien. Et pourquoi ? Parce que ça bouche les oreilles de commencer par croire qu'on a déjà compris alors qu'on n'a même pas encore commencé à écouter.
Magnifique. Merci beaucoup. Merci Dorothée Legrand d'avoir été avec nous aujourd'hui. Alors, je rappelle à nos auditrices et à nos auditeurs que vous êtes chercheuse en philosophie, psychologue et psychanalyste, et que nous pouvons retrouver sur carne.info non seulement vos articles, mais aussi votre livre « Écrire l'absence au bord de la nuit ». Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
Merci beaucoup.
Merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode. Et donc, à très bientôt pour le temps d'un échange.
Merci d'avoir pris le temps d'un échange. Pour approfondir sur ce thème, retrouvez les publications de l'autrice ou auteur en cliquant sur le lien dans la description ou directement sur la page dédiée de Cairn. Bonne réflexion à toutes et à tous, et à bientôt sur cairn.info.